Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Tours 99.5 FM. C'est Marc au micro, vous m'avez sûrement déjà entendu à l'antenne et je suis accompagné de mon camarade Quentin, ancien conférencier du Centre de création contemporaine Olivier Debré, le CCOD à Tours, et vous êtes dans la première émission d'Acide, l'émission qui tente de dissoudre le cliché qui colle à la peau de l'art contemporain. Et oui, au programme des revues de presse sur l'actualité culturelle, qu'elle soit politique ou artistique, des invités d'exception, on essaiera de vous dégoter de superbes représentants d'institutions culturelles, ainsi que de talentueux artistes. Quentin Féru d'exposition reviendra sur ce qu'il a visité, ce qu'il a vu au cours de ces derniers mois. On espère que cette émission permettra de changer votre regard sur la création, sur la création contemporaine qui, on le sait, est difficile d'accès et semble élitiste. Rien que de rentrer dans un musée, c'est déjà un grand pas. Mais n'ayez pas peur, soyez curieux de tout. Alors embarquez avec nous dans cette folle aventure parsemée d'acidité. On commence tout de suite avec la revue de presse du mois. Et pour parler de culture, il faut bien évidemment parler de notre ministre. Chez Acide, on a décidé d'appeler ça les aventures de Dati. Ce sera comme un petit rendez-vous où on pourra parler de ses exploits et des décisions qu'elle prend à la tête du ministère de la Culture. Enfin, vous le savez déjà, Rachida Dati, c'est une ancienne ministre sous Sarkozy, ancienne femme politique Les Républicains. Elle crée la surprise générale en étant nommée le 11 janvier dernier à la rue de Valois, donc au ministère de la Culture, par Emmanuel Macron. Surprise en premier lieu par la situation judiciaire de la ministre, car elle est mise en examen depuis juillet 2021 dans l'enquête sur une filiale de Renault-Nissan pour corruption et trafic d'influence. En deuxième lieu, car elle fut élue à la mairie de Paris, à la mairie du 7e arrondissement de Paris en juillet 2020, sous l'étiquette LR. Depuis qu'elle est ministre, en tout cas, elle fait parler d'elle même beaucoup. Elle rejoint Macron et Attal en tant que starlette du gouvernement, sans doute plus star que ministre, avait titré une des émissions des Grandes Gueules sur RTL, une semaine après sa nomination. Son dernier coup d'éclat, c'est bien sûr le Festival de Cannes. Elle a imposé sa place et les images de sa présence ont été parmi les plus commentées, éclipsant même parfois les stars qu'elle rencontra. Comme a dit Ambre Chalumeau sur le plateau de Quotidien le 20 mai dernier, elle était en quelque sorte là où il fallait être et à côté des personnes avec qui il fallait être. Énorme coup de com' pour elle et son équipe. En plus de ça, une dépêche AFP tomba samedi 18 mai annonçant que Rachida Dati obligera les tournages employant des mineurs d'avoir un responsable enfant sous peine de voir leur subvention du CNC coupée. On ne peut que s'en réjouir, mais c'est un mouvement extrêmement intelligent de la part de son équipe de l'annoncer à ce moment précis. En effet, elle surfe sur la polémique, car c'était une des demandes de l'actrice Judith Godrèche, qui dénonce depuis novembre les multiples agressions au sein du monde du cinéma, qu'elles soient sexistes ou pédocriminelles. Mais la culture n'est pas qu'une histoire de politique, c'est aussi une histoire de pouvoir. Dans le paysage artistique parisien, deux mastodontes se font face. La Fondation Louis Vuitton de Bernard Arnault, Bois de Boulogne d'un côté, et la Bourse du commerce de la collection Pinault devant les Halles de l'autre. Toutes deux ont renouvelé leur exposition au début du mois de mai. On peut voir par exemple Henri Matisse chez Arnault et l'artiste coréenne Kim Soo-ja chez Pinault. Bernard Arnault, c'est l'ex-PDG et actionnaire majoritaire de LVMH. Et quant à François Pinault, il est l'ex-PDG et actionnaire de Kering, qui détient notamment Gucci et Yves Saint Laurent. Même si les deux hommes ont enterré la hache de guerre économique, car ce sont des mastodontes économiques aussi, c'est sur le terrain de l'art contemporain qu'ils s'écharpent désormais. Ils conditionnent maintenant le modèle de l'art financier parisien. Je vous invite à feuilleter le livre d'Aude de Kéros, « L'imposture de l'art contemporain, une utopie financière ». Et oui, paru aux éditions Erol, elle tente de mettre en évidence les liaisons dangereuses de l'artiste, du financier et du fonctionnaire. Du fonctionnaire ou du représentant politique d'ailleurs. Bien que la devise de la Fondation Louis Vuitton soit, ouvrez les guillemets, animée par une mission d'intérêt général, la Fondation s'engage à rendre l'art et la culture accessibles à tous, cela n'a pas dérangé le PDG d'utiliser par l'intermédiaire des parlementaires la technique du cavalier législatif. Attention, moment définition. La technique visa à glisser en douce un amendement sans lien direct avec la proposition de loi, donc avec le sujet principal du texte législatif étudié dans l'hémicycle, pour valider le permis de construire en 2011 de l'édifice, alors même que sa construction était contestée par plusieurs associations de défense du Bois de Boulogne. Tout cela démontre, en tout cas, que les assises du pouvoir sont intimement liées à celles du monde de la finance, et cela même dans l'art contemporain, qui reste un marché financier. Bref, assez parlé de politique et de pouvoir. Quentin, je te laisse la parole pour ta chronique culturelle.
Merci Marc. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi c'est Quentin. En effet, vous me connaissez peut-être déjà en tant que conférencier au CCCOD, un poste que j'ai occupé pendant 7 ans. Et aujourd'hui, sur Radio Campus, je m'adresse aux amateurs d'art pour cette chronique spéciale dédiée à mes coups de cœur, qu'ils soient architecturaux ou artistiques. Je vous parlerai de ce que je suis allé voir dernièrement, de ce qui m'a fasciné. Et cela m'amène à vous parler de ma récente excursion à Paris et de la découverte de la toute dernière exposition collective visible à la Bourse de Commerce. Débutée en mars dernier, exclusivement constituée d'œuvres de la collection Pinault, elle est intitulée « Le monde comme il va », titre emprunté à un conte philosophique de Voltaire. Tout comme le personnage principal de ce conte, à savoir un observateur envoyé pour tenter de comprendre l'humanité, et là je cite directement le site, le visiteur est confronté à une vision ambivalente, oscillant entre faiblesse et vigueur, d'un monde qui semble se laisser aller à sa perte, mais qui conserve espoir et grâce. La galerie 4 de cette exposition, sous-titrée « Fabrique des ruines », met en avant la rencontre entre deux visions chaotiques du monde, deux générations qui se confrontent. Si tout comme moi, vous avez eu la chance à l'été 2021 de découvrir au Palais de Tokyo l'exposition « Nature morte » de l'artiste allemande Anne Imhoff, alors vous serez certainement ravis de revoir certaines de ses pièces à la Bourse de Commerce. C'est une huile sur toile de 2022 qui est visible ici, composée tel un triptyque et qui ne possède pas de titre. Comme si aucun mot ne pouvait qualifier la scène d'apocalypse qui s'y déploie, où des nuages atomiques et crépusculaires semblent s'étendre au-delà du cadre. Cette peinture fait office d'arrière-plan cataclysmique pour la carcasse de Ferrari rouge récupérée telle quelle par l'artiste français Bertrand Lavier en 1993, faisant partie de ses Ready Destroyed, une évolution, vous l'aurez bien sûr compris, du Ready Made de Marcel Duchamp. C'est une voiture mythique, de grande valeur, qui se dévoile totalement accidentée devant nos yeux, produisant une charge émotionnelle assez forte. Présentée sur un socle immaculé, elle nous interroge forcément sur le statut d'œuvre d'art. En déambulant dans les galeries de cette exposition, vous pourrez également croiser d'autres œuvres de Anne Imhoff, mais aussi de Damien Hirst, Rosemary Troquel, que je vous conseille d'ailleurs, Cindy Sherman ou encore Maurizio Cattelan. Cette exposition est visible jusqu'au 2 septembre 2024. Petit bond de plus de 1000 km, car ce soir, je souhaitais également vous parler de mon récent voyage à Valence, en Espagne. La ville renferme de véritables trésors et les amateurs d'architecture brutaliste pourront être totalement émerveillés devant certaines façades en béton d'immeubles du centre-ville. D'ailleurs, les caractéristiques architecturales de l'Institut de l'Art Moderne, l'IVAM, que l'on doit à l'architecte sévillan Guillermo Vázquez Consuegra, m'ont absorbé. Ce dernier possède une importante collection de plus de 11 000 œuvres, autour de laquelle s'articulent donc les expositions temporelles. Celle qui m'a le plus touché s'est terminée le 2 juin, intitulée « Photographie in between », que l'on peut traduire par « photographie intermédiaire », mettait l'accent sur la photographie contemporaine et son rôle dans l'art des années 1950 à nos jours. On pouvait se retrouver devant les clichés des Allemands Thomas Ruff, Sigmar Polke ou encore les Becher. Mais une œuvre m'a particulièrement surpris. Il s'agit de Rock'n'Roll 17 de l'artiste britannique Gillian Wearing. Datée de 2015, la composition encadrée reprend les codes du triptyque et présente un autoportrait de l'artiste à 50 ans, suivi d'une image retouchée numériquement d'elle-même, progressant jusqu'à 70 ans, ainsi qu'un espace laissé vide et à compléter par un dernier autoportrait lorsqu'elle en aura 70 en 2033. Elle utilise les plus récentes technologies dans son travail, dont l'intelligence artificielle, afin d'explorer la nature du vieillissement et de l'auto-représentation dans le monde contemporain. Elle soumet l'un des genres les plus anciens de l'histoire de l'art, l'autoportrait, à la manipulation numérique à travers des outils de traitement de l'âge. Elle met donc en évidence l'imprévisibilité du temps qui influe sur notre physique et nous interroge sur ce que nous ressentons et comment nous réagissons face au vieillissement. Pour ma part, la mission de l'IVAM de surprendre le visiteur est accomplie et toutes ces expositions montrent la diversité, la richesse même de ces collections. Et même s'il existe un CCCC à Valence, le Centre culturel contemporain de Carmes, c'est le CCCOD de Tours et l'une de ses dernières expositions en date qui m'attire à présent pour clore cette chronique. Nous voici totalement plongés dans la nef du Centre d'art, accompagnés des dernières créations de l'artiste turc Era Büyüktaşian. S'agissant d'une coproduction avec le SIAB Vassivière, c'est le Centre international d'art et du paysage, ce projet a été pensé de manière à prendre en compte l'espace, les volumes de la salle ainsi que l'histoire du territoire. En clair, il s'agit d'une création sensible, poétique, intitulée « Défendre les eaux ancestrales ». Un titre également de la gigantesque installation centrale, inspirée du recueil de textes de la poétesse britannique Kathleen Raine, « Defending Ancient Springs » de 1967. Composé de bois et de toiles de paillage couleur verte qui tend vers le bleu, L'œuvre représente une vague monumentale qui évoque les effets transformateurs de l'eau lorsqu'elle traverse justement un paysage. Ici, c'est l'énergie puissante de la Loire qui est évoquée, un côté esthétique qui attire l'œil du visiteur depuis l'accueil ou même depuis l'extérieur. Je vous laisse découvrir l'exposition par vous-même, tout comme la série de dessins qui agrémente le parcours du visiteur en vous rendant au centre d'art, qui est ouvert donc du mercredi au dimanche, de 11h à 18h.
Merci Quentin, pas mal le petit accent turc pour Erabiyuk Tashian.
Merci.
Est-ce que tu peux nous rappeler les prix d'entrée pour l'IVAM et la Bourse du Commerce ?
Oui, tout à l'heure, tout à fait. Il est à noter que l'entrée est gratuite tous les samedis, donc de 14h à 17h et les mercredis pour l'IVAM. Et en ce qui concerne la Bourse de Commerce, c'est un tarif à 14€ pour le plein et 10€ le réduit, donc pour les minima sociaux et puis les demandeurs d'emploi. Et d'ailleurs, pour les minima sociaux, je me suis trompé, c'est totalement gratuit.
Très bien. Je propose une petite pause musicale avant de retrouver Marine Rochard pour une interview. Donc Marine Rochard, qui est la chargée d'expo au CCCOD, et Noélie Thibault, la responsable du service des publics, pour une interview. Pour une interview après la pause musicale, je vous propose le morceau d'Akasei, donc un artiste orléanais, Entrance de l'EP Pshit Party. C'est d'ailleurs un artiste qui prépare un mémoire sur l'émergence de la musique techno en France. Donc voilà, écoutons ça. Thank you. Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 FM dans l'émission Acide avec Quentin et Marc. On vient d'écouter Akasei avec son son Entrance de l'EP Pshit Party. Et nous recevons sur le plateau d'Acide Marine Rochard, donc chargée d'exposition au CCOD, et Noélie, la responsable du service des publics. Comment allez-vous ?
Super, très bien.
Première question, comment fait-on pour faire entrer des visiteurs dans le centre d'art ? Et quels sont les moyens pour donner envie aux visiteurs de découvrir le CCCOD ?
Une vaste question. Les initiés déjà. Mm-hmm. Le visiteur n'ira jamais seul, je pense, au centre d'art ou dans un lieu culturel. Il faut qu'il soit initié par quelqu'un d'autre. Tout l'enjeu aussi d'une politique culturelle, éducative, voilà. Et de se dire que le centre d'art est un lieu de rencontre, de rendez-vous. Voilà, que le lieu soit accueillant. Que les personnes soient accueillies par une équipe disponible, bienveillante aussi, qu'ils se sentent accueillis et considérés quand ils passent la porte de ce lieu. Ne pas les considérer, s'ils ont passé la porte, comme visiteurs acquis, mais comme une personne en devenir ou en construction.
Merci beaucoup. La nouvelle exposition « Intrication » a ouvert ses portes le 26 avril dernier. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Marine ?
Oui, alors cette exposition « Intrication », c'est une exposition qu'on a qualifiée d'exposition en dialogue, puisqu'elle opère la rencontre entre les travaux de deux artistes, Anna Solal et Pierre Unal Brunet. C'est une vraie rencontre, humaine et plastique, puisque les artistes ne se connaissaient pas auparavant. Mais lorsqu'on leur a proposé le principe de cette exposition, ils ont tout de suite accepté, puisque, en effet, il y a beaucoup de points communs dans leurs travaux, même si esthétiquement, ils sont extrêmement différents, extrêmement variés. Donc Anna Solal, qui est née en 1988, est une artiste française. Elle travaille, elle, plutôt dans le champ de la technologie, en proposant des œuvres qui, sur la base du collage, mélangent certains déchets, par exemple beaucoup d'écrans d'iPhone brisés, ou alors des objets de grande consommation, bon marché, de mauvaise qualité, comme des épingles à cheveux ou ce genre de choses, ou même des ustensiles de cuisine. Elle récupère également des chaînes de vélo. Et donc tous ces éléments, elle les juxtapose, elle crée des compositions, soit à travers des sculptures. Elle présente par exemple ici beaucoup de cerfs-volants, soit à travers des œuvres qu'on ne peut pas qualifier de peinture, parce qu'il n'y a quasiment jamais de peinture, qu'on ne peut pas non plus qualifier de sculpture ni d'objet parce qu'il n'y a pas assez de volume, mais ce sont des sortes de bas-reliefs hétéroclites. Et malgré la séduction que peuvent opérer les couleurs, malgré la séduction que peuvent opérer la composition et les nombreux jeux de brillance qu'elle orchestre dans ses travaux, il y a toujours quelque chose de tranchant chez elle. Il y a toujours quelque chose de l'ordre d'une angoisse ou de la mélancolie et quelque chose qui a soigné. Elle fait un art du soin, quelque part. Et elle produit également des dessins au crayon de couleur qu'on montre dans l'exposition. Quant à Pierre Unal Brunet, qui est né, lui, en 1993, c'est aussi un artiste français. Et alors, lui, il travaille également l'assemblage, le collage et la rencontre d'éléments hétéroclites, mais dans une ambiance un peu plus naturelle, puisqu'il ramasse des bois flottés, des coquillages, des pierres. Donc, il y a tout un lien avec cet environnement naturel, avec le paysage. Et donc, lui, il va venir créer avec ces éléments-là des sculptures qui sont comme des petits personnages qui prennent notamment place dans une installation qu'il a appelée Laughing Gills. Et puis, il fait aussi de la peinture, donc des œuvres en deux dimensions, des peintures qui sont extrêmement colorées, qui font aussi appel à certains éléments éparses, même si c'est beaucoup plus plat. Mais même si c'est uniquement de la composition picturale, il fonctionne aussi sur ce principe du collage, en opérant une rencontre entre des dessins, par exemple, ou entre des motifs graphiques qui vont se superposer les uns aux autres et qui créent tout le temps des discrépances comme ça dans la perception. En tout cas, les deux travaux se rencontrent de cette façon-là, sur leur hétérogénéité et sur l'hybridation des formes et des matériaux.
Et comment cette exposition s'est-elle construite au fil du temps et aussi comment on arrive à en parler en tant que médiateur ?
Alors, donc nous avons sollicité Anna et Pierre au début de l'été 2023. Ils sont tous les deux venus visiter la Galerie Blanche où se tient leur exposition au Centre d'art début septembre 2023. Et ensuite, on a commencé à travailler ensemble. On accompagne les jeunes artistes à la production de nouvelles œuvres. Donc tous les deux ont eu un budget de production qui leur a été alloué pour qu'ils puissent produire de nouvelles œuvres pour cette exposition-là. Bien entendu, on montre aussi des œuvres un peu plus anciennes pour montrer toute l'étendue de leur travail. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres nouvelles qui ont été créées.
Et c'était vraiment le jeu aussi de ce jeu de la rencontre, en fait. Les visiteurs, les premiers visiteurs lors du vernissage l'ont ressenti. En fait, c'était assez drôle parce qu'ils cherchaient à identifier quel était l'artiste derrière chaque œuvre. Alors que justement, Marine, Pierre et Anna avaient travaillé pour que chacun ait son pan de mur, chacun ait aussi sa zone, que la rencontre, elle se fasse de manière plus perméable dans le réseau, dans des renvois de couleurs ou de jeux d'objets qu'ils utilisent. Et là, au vernissage, c'est mais qui est qui fait quoi, voilà. Et puis, il y a cet aspect aussi de la création contemporaine très actuelle. C'est, je crois, la troisième fois que la Galerie Blanche accueille de la jeune création artistique. Et il y avait eu Christodoulos Panayiotou, l'artiste chypriote, mais on était plus sur de la sculpture, de l'installation. Ensuite, il y a eu l'exposition collective avec Déborder la toile, avec des jeunes artistes aussi en lien avec Olivier Debré. Et là, c'est vraiment la jeune création contemporaine. Et c'est intéressant qu'elle prenne place dans cet espace qui est plutôt l'espace muséal du Centre d'art. Elle nous fait appréhender aussi l'espace d'une autre manière. Le jeune public est plutôt est très curieux de l'exposition. C'est une exposition qui, enfin, les premiers retours, voilà, des plus jeunes visiteurs sont très positifs, très accueillants, voilà. Et je pense qu'il y a cette idée aussi du recyclage, c'est-à-dire comment par le biais de l'art on revalorise des objets qui nous environnent, et puis on est très dans ce contexte actuel de revalorisation de ce qu'on peut produire au 20e. Et là, on va avoir chaîne de vélo, écran d'iPhone ou de smartphone cassé, brisé, collecté, coquillages ramassés, comme tu disais, sur la plage, mais aussi bouts de plastique, hein, voilà, de la ficelle, du bois flotté, associé à des petits objets que Pierre trouve, voilà, des petits objets cassés, parfois des morceaux de jouets,
des petits jouets.
Et ça fait référence à tout un univers très présent aussi dans la culture contemporaine, qui est l'univers qu'on nomme science-fiction, post-apocalyptique, dystopique, voilà, c'est-à-dire comment créer et se reconstruire à partir de ce que l'on a et d'une production que les artistes donnent à voir dans l'exposition, un peu comme des vestiges de notre époque contemporaine, alors que ce sont des objets que l'on utilise au quotidien.
Et toi, Marine, tu es aussi la chargée d'exposition avec Delphine Masson de Sortir le travail de sa nuit. Pourquoi c'était important pour vous deux de traiter de ces métiers invisibles qu'on voit pas, qu'on ne met pas en lumière ?
Important pour nous. Alors déjà, c'est une programmation artistique. C'est notre directrice Isabelle Reyer qui nous a demandé de travailler sur cette question-là dès 2020. On a commencé à travailler sur le champ du travail pour une première exposition qui a commencé en 2021, qui s'appelait Variables d'épanouissement. Et donc là, cette exposition Sortir le travail de sa nuit est un second volet. En fait, lors de nos premières recherches pour le premier volet, on avait identifié énormément de choses qu'on aurait aimé traiter sur le travail. Donc on avait traité un axe. Et là, aujourd'hui, il nous était apparu que le second axe qui nous avait beaucoup intéressé, on voulait le traiter maintenant, puisque cette question de l'invisibilité des travailleurs, des travailleuses, et en général, cette question de l'invisibilité sociale, elle était extrêmement patente, puisque... au sortir du confinement, on avait mis en valeur les travailleurs dits de première ligne, vous vous souvenez. Et ils sont complètement retombés dans l'oubli aujourd'hui. Et puis, il y a quand même quelques conflits sociaux au sujet des rémunérations.
Mais j'ai vu que cette exposition, elle avait fait... Il y avait eu pas mal de critiques vis-à-vis de Sortir le travail de sa nuit, notamment celui de Libération, qui vous a accordé un article qui est plutôt assassin, il faut le dire. Comment vous recevez ça en tant que responsable des publics et en tant que chargée d'expo ?
En tant que chargée d'exposition, C'est sûr qu'avoir une critique extrêmement négative, je ne vais pas vous dire que ça m'a fait super plaisir. Mais en même temps, c'est intéressant quand même de recevoir des critiques parce que très souvent, nous, dans notre position et dans notre travail et sur nos expositions, on n'a pas forcément toujours des journalistes qui écrivent des articles d'abord. Donc c'est bien d'avoir un retour, quel qu'il soit. Et aussi, ce qui nous intéresse dans la réception de cette exposition, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup d'articles jusqu'à présent dans des médias nationaux, en fait. Enfin, pas que, mais beaucoup de médias nationaux. Et en fait, c'est une exposition qui est très clivante. Oui. Il y a des journalistes qui ont adoré, il y a des journalistes qui ont détesté. Et du coup, on voit bien, et je pense que c'est ce que Noélie nous dira aussi, on voit bien que quand on essaye de traiter un sujet de société, ça alimente toujours un débat. Puisque c'est un débat dans le champ médiatique, politique, social.
Parce que le sujet est éminemment politique ici.
Exactement. Et là, pour le coup, la critique de Libération était que notre exposition n'est pas assez engagée, qu'il aurait aimé davantage d'engagement, alors qu'au contraire, par exemple, des critiques comme dans la revue Marianne ou dans la revue S, justement, mettent en valeur la subtilité de notre discours et du parcours ainsi créé par l'exposition. Donc c'est vraiment une question de point de vue... c'est une question assez subjective. Et puis, comme c'est, encore une fois, on le disait, un débat actuel, ça attise tout de suite des réactions, des passions.
Et la culture, elle est présente avec l'œuvre de Sébastien Langlois, où il va à la rencontre et il enregistre les voix de ces techniciennes, régisseuses, liseuses de partitions techniques dans les opéras et dans le spectacle vivant. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on voit dans l'exposition ? On voit deux haut-parleurs. Et après, faut prendre le temps de se mettre entre les deux haut-parleurs, de décrypter aussi ce qu'on est en train d'entendre, parce que c'est crypté, on est de l'ordre du langage professionnel. Je trouve que y a une subtilité dans l'exposition. Et cette subtilité, elle va nourrir en fait les critiques. Et c'est tout l'objet de l'art contemporain. Contemporain et critique.
Et pour revenir aux critiques positives, notamment dans un des articles des Un Rock, il termine là-dessus sur les opératrices, donc c'est l'œuvre de Celciane Langlois. Il termine en disant « Une nuit à l'opéra avec elle, c'est une autre manière de considérer toutes celles et ceux qui, travaillant dans l'ombre, attirent la lumière dès lors qu'on leur prête attention. » En fait, c'est clairement ça, la subtilité, le propos de l'exposition. Ça. Merci beaucoup. Merci Noélie, merci Marine. Donc voilà, c'était la première émission de Acide sur Radio Campus Tours 99.5 FM. On a été heureux de faire cette première interview avec vous. Donc voilà, vous pouvez écouter toute la musique que vous voulez sur Radio Campus Tours. À dans un mois.